Il est 18h passé de 1 minute sur France Culture. L'heure des informations avec vous, Stanislas Vazal, bonsoir.
Bonsoir. La mort de Claude Lanzmann, qui était aussi une figure de la vie intellectuelle française, compagnon de route de Sartre. Dans un instant, le témoignage de Serge Klarsfeld et l'évocation de l'intellectuel engagé avec Cécile de Kervas-Douai. Le Royaume-Uni demande des explications à la Russie après une nouvelle affaire Skripal. Un couple britannique retrouvé empoisonné au Novichok, Aude Soufi nous appellera de Londres. Rencontre tendue aujourd'hui à Berlin entre Angela Merkel et Viktor Orban. La crise migratoire oppose la chancelière allemande au Premier ministre hongrois. Le reportage de David Philippot. En France, le Parti communiste se mobilise contre une éventuelle suppression de l'expression sécurité sociale de la Constitution. Le gouvernement se défend de vouloir remettre en cause la Sécu, un dossier préparé par Anne Fauquemberg. Il avait 92 ans et son nom restera à jamais associé à son œuvre majeure, le film Shoah. Claude Lanzmann est mort aujourd'hui à Paris. Il aura imposé les images contre l'oubli, l'art contre les négationnistes, dit de lui la ministre de la Culture Françoise Nyssen. Je vous propose d'écouter un autre hommage, celui de l'historien Serge Klarsfeld. Pour lui, Shoah est un film incontournable pour comprendre la mécanique du génocide orchestré par les nazis.
Dans ses films, il n'a pas fait témoigner que les victimes, il a fait témoigner avec beaucoup d'ingéniosité, beaucoup d'intelligence, les bourreaux également. Il savait s'y prendre parce qu'il avait cette passion qui lui permettait de dominer ses répulsions, et bien de parler aux bourreaux et d'obtenir d'eux qu'ils aillent au fond d'eux-mêmes et qu'ils... Que l'exemple de ce bourreau de Treblinka qui lui chantait les chansons que l'on chantait à Treblinka, c'était des choses qu'on n'arrive pas à oublier. En même temps, c'est un très grand artiste qui, par son talent, par son génie, arrive à transmettre ce qu'a été la Shoah sans montrer des images d'archives. Moi, je suis comme historien très attaché aux images d'archives, par exemple, parce qu'elles montrent ce qui s'est passé. Mais lui, il va presque au-delà de ce qui s'est passé pour montrer la vérité profonde de la Shoah. C'est ça, la capacité des artistes. Et tout ce qu'il a filmé a été filmé avec beaucoup d'intelligence, en même temps qu'avec une passion contrôlée. Et c'est une œuvre inoubliable qui restera toujours présente dans le patrimoine de l'humanité.
L'historien Serge Klarsfeld répondait à Boris Loumagne. Noté, Carté diffusera en intégralité le film Shoah samedi soir à 20h50. Alors pour autant, ce serait une erreur de réduire Claude Lanzmann à son combat contre l'antisémitisme et pour la mémoire du génocide des Juifs. Cécile de Kervas-Douai, bonsoir.
Bonsoir.
Écrivain, journaliste, philosophe, Claude Lanzmann était aussi une figure majeure des intellectuels de gauche de l'après-guerre.
Oui, Claude Lanzmann a eu très tôt une admiration débordante pour Jean-Paul Sartre. C'est ce qu'il raconte dans un numéro de la revue des temps modernes de 2005 intitulé « Notre Sartre ».« Mon Sartre, ma première rencontre avec Sartre », écrit-il, c'était en 1943 en Hippocagne à Clermont-Ferrand. Un condisciple qui sera connu plus tard comme un grand épistémologue, Gilles Gaston Grangère, lui donne « L'être et le néant » qui vient de paraître. Et les deux garçons s'enthousiasment sur cette « ontologie révolutionnaire », écrit encore Claude Lanzmann, œuvre de résistance et de liberté. À l'époque, nul ne s'y trompait, dit encore celui qui était alors engagé en résistance dans les jeunesses communistes. Et puis, il continue en confiant que c'est surtout réflexion sur la question juive qui paraît 3 ans plus tard et qui sera pour lui fondateur. Sartre nous réconcilie à tous, tout à la fois avec la France et avec notre situation de juif, dit-il. Ce petit livre fit plus que toutes les lois, toutes les réparations et toutes les victoires pour nous libérer de la peur, de la honte, pour nous permettre de nous sentir chez nous en France tout en nous restituant l'orgueil d'être juif. En 1949, Jean-Paul Sartre remarque ses articles sur l'Allemagne de l'Est parus dans Le Monde et lui propose de rejoindre sa revue Les Temps Modernes, revue qu'il dirigera à la mort de Simone de Beauvoir en 1986. Avec Sartre et Beauvoir, les liens affectifs sont très forts. Lanzmann sera même le seul homme à vivre avec Simone de Beauvoir. Mais leur collaboration est aussi étroite. Ensemble, ils militent pour l'indépendance de l'Algérie. Il fera ainsi partie des inculpés parmi les signataires du manifeste des 121 qui dénoncent la répression en Algérie. Et si Lanzmann s'éloigne de Sartre en 1960, 68. Il conservera cet attachement à l'indépendance des peuples bien plus tard encore, lors des interventions françaises au Kosovo, en Libye ou encore au Mali, mais tout en conservant toujours un attachement viscéral à l'État d'Israël. Autre paradoxe, comme Sartre, Lanzmann s'opposait aux gens de pouvoir et il s'en était expliqué en parlant de son travail philosophique sur Leibniz. « Tout choix est un meurtre », disait-il. On reconnaît, paraît-il, les chefs à leur capacité meurtrière, on les appelle des décideurs et on les paie très cher pour cela. Mais contrairement à Sartre, Lanzmann ne négligeait pas les honneurs. Il recevra sans broncher l'ours d'or d'honneur à la Berlinale de 2013.
Cécile de Kervas-Doué, merci. Retrouvez sur franceculture.fr toutes nos archives sur Claude Lanzmann. C'est désormais une certitude au Royaume-Uni. Le couple retrouvé empoisonné samedi dans une maison d'Emsbury a bien été victime du Novichok, ce poison mis au point en Russie. Il s'agit donc du même agent innervant qui avait intoxiqué l'ex-espion russe Sergei Skripal et sa fille Yulia en mars à Salisbury. Les Skripal vont mieux alors que le couple d'Emsbury est dans un état critique. Seul point commun apparent entre les deux affaires, Emsbury est situé à une dizaine de kilomètres de Salisbury. Haut de Soufi, le gouvernement britannique a fait le point ce matin sur cette affaire.
Comment cet homme de 45 ans et cette femme de 44 ans, des citoyens britanniques sans aucun lien apparent avec les Skripal, ont pu être exposés au même agent neurotoxique 4 mois plus tard, et ce, alors que les autorités avaient assuré aux habitants qu'ils ne couraient aucun risque, c'est ce que l'enquête doit déterminer. Une centaine d'agents de l'unité antiterroriste de Scotland Yard sont sur l'affaire. Le ministre de l'Intérieur, Sajid Javid.
Nous avons eu une approche très ferme dans la décontamination. Il n'y a eu aucune preuve que l'homme ou la femme à l'hôpital ait été dans l'un des endroits où ont été les Skripal. Notre hypothèse de travail est que le couple est entré en contact avec l'agent innervant dans un lieu différent de ceux qui ont fait partie de l'opération de nettoyage.
6 lieux où le couple s'est rendu ont été placés sous cordon de sécurité et vont être décontaminés. Face à l'inquiétude des habitants de la région, les autorités sanitaires affirment qu'il n'existe pas de risque significatif pour le grand public et que si d'autres personnes avaient été exposées au Novichok, les symptômes se seraient déjà manifestés.
Aude Soufi, correspondante à Londres. Il est maintenant temps que l'État russe explique exactement ce qui s'est passé, a déclaré le ministre britannique de l'Intérieur, Sajid Javid. Moscou nie bien sûr toute responsabilité. Le gouvernement de Theresa May devra s'excuser pour ses accusations, a répliqué Maria Zakharova, la porte-parole de la diplomatie russe. Tous les séparent ou presque sur la crise migratoire en Europe et pourtant Angela Merkel et Viktor Orban se sont rencontrés aujourd'hui à Berlin. D'un côté, une chancelière allemande obligée de renoncer à sa généreuse politique d'ouverture pour sauver sa coalition. De l'autre, un premier ministre hongrois réélu triomphalement à la tête de son pays sur une ligne anti-migrants qui gagne du terrain dans toute l'Europe. Résultat, une conférence de presse tendue à l'issue de leur entrevue. Le reportage à Berlin de David Philippot.
La dernière visite de Viktor Orban à Berlin remonte à 2015, mais depuis, alors que l'idée d'Angela Merkel de répartition automatique des migrants en Europe a été catégoriquement rejetée, le vent a tourné, comme l'écrit aujourd'hui un quotidien hongrois, et la chancelière se voit dans l'obligation de négocier des accords sur le retour des migrants pays par pays, mais sans vouloir renoncer aux valeurs qui la guident.
L'âme de l'Europe, c'est l'humanité, et si nous voulons conserver cette âme et jouer un rôle dans le monde en gardant ses valeurs, alors l'Europe ne peut ignorer ceux qui sont dans la souffrance et le besoin et ne pas se couper du monde. Cela signifie d'abord aide au développement, mais cela doit aussi signifier contingents légaux ou des places d'étudiants ou alors du personnel qualifié. Et c'est peut-être la différence que nous avons avec le ministre-président.
À sa droite, la mine sombre, Viktor Orban confirme son désaccord. Il déclare « Nous devons être humains, mais sans créer de facteurs d'attraction. Et le seul moyen de le faire, c'est de fermer les frontières, de venir en aide aux pays d'origine des migrants et de ne pas laisser entrer les fauteurs de troubles. » Fin de citation du Premier ministre hongrois qui a confirmé qu'il pourrait ratifier un accord, mais à condition qu'un accord préalable soit négocié avec l'Autriche.
David Philippot et les trois partenaires de la coalition au pouvoir en Allemagne se retrouvent ce soir à Berlin pour valider le nouveau tour de vis migratoire voulu par la CDU et la CSU. Reste à obtenir le feu vert des sociaux-démocrates du SPD. En France, en aucune façon, il ne s'agit de remettre en cause la sécurité sociale. Devant les sénateurs, Édouard Philippe a tenu à se démarquer d'un amendement voté en commission à l'Assemblée en début de semaine. Un texte porté par le député LAREM Olivier Véran qui remplace dans la Constitution l'expression « sécurité sociale » par « protection sociale ». Pour les élus communistes, cette question sémantique n'est pas anodine. Ils redoutent une remise en cause pure et simple de la Sécu. C'est un dossier préparé par Anne Fauquemberg.
Olivier Véran ne voulait pas en tant que tel supprimer la sécurité sociale. Le député souhaitait simplement modifier l'appellation « loi de financement de la sécurité sociale » en écrivant à la place « loi de financement de la protection sociale ». 6 occurrences dans le projet de loi constitutionnelle avec pour objectif de ne pas cantonner les prochains débats parlementaires sur la sécurité sociale aux 4 risques définis historiquement, mais pouvoir faire une place par exemple à la dépendance qui n'est pas comprise dans l'organisation actuelle de l'organisme. Alors il faudra s'y prendre autrement, explique Olivier Véran, qui retravaille actuellement son amendement.
Nous pouvons faire la même chose, arriver au même résultat, sans changer le nom loi de financement de la sécurité sociale en loi de financement de la protection sociale, mais en indiquant que les lois de financement de la sécurité sociale devront être étendues au périmètre plus large de la protection sociale. Bon, j'espère que ça lèvera l'ambiguïté et qu'on pourra avancer.
Les députés communistes qui se sont alarmés de cet amendement respirent un peu mieux ce soir. Mais pour Pierre Dharréville, leur porte-parole dans l'hémicycle, il faudra rester vigilant la semaine prochaine lors du retour du texte en séance publique.
On a vu un gouvernement qui s'est attaqué aux cotisations salariales et donc qui a affaibli le financement de la sécurité sociale et qui a transformé même la philosophie du financement de la sécurité sociale et de la sécurité sociale elle-même. On a vu un président de la République s'attaquer à ce qu'il appelle les aides sociales. Et je comprends tout à fait pourquoi ils en arrivent aujourd'hui à vouloir supprimer le terme de sécurité sociale.
Ce glissement sémantique de la sécurité sociale vers la protection sociale mérite d'être interrogé, estime Philippe Abécassis, économiste spécialiste de la santé. Il est membre des économistes atterrés, classés à gauche.
Ça nous permettrait de changer totalement de système de santé sans que l'on puisse réellement avoir de discussion de fond sur le système qu'on veut. C'est l'ensemble du principe de solidarité qui serait remis en cause.
Alors qu'Emmanuel Macron cherche à montrer sa jambe gauche, le gouvernement ne pouvait pas laisser monter cette polémique, même si celle-ci semble être le symptôme d'une politique atrophiée sur le volet social.
Anne Fauquemberg, s'agit-il d'une brèche dans la mise en œuvre du prélèvement à la source prévu au 1er janvier prochain? En tout cas, un certain nombre de contribuables vont bénéficier d'un report supplémentaire d'un an. Il s'agit des salariés travaillant pour des particuliers. Le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin, l'a annoncé ce matin. Mélodie Pépin, bonsoir.
Bonsoir.
Emmanuel Macron avait déjà reporté d'un an cette réforme fiscale lancée par François Hollande et ce nouveau report ne concernerait cette fois que 250 000 personnes.
Les nounous, les assistantes maternelles, les employés de ménage, de jardinage, ils représentent 1,4 million de salariés en France, mais seulement 250 000 sont imposables pour des montants minimes, selon Bercy. Pour eux, l'impôt prélevé à la source s'appliquera donc en 2020, ce qui ne veut pas dire que 2019 sera une année blanche. Il faudra tout régler en 2020 en plus de l'impôt prélevé à la source. Toutefois, il y aura des possibilités d'étalement au-dessus de 300 euros d'impôt annuel. Du cas par cas, indique Bercy, il est aussi possible d'anticiper et de verser en 2019 des acomptes pour ne pas avoir à tout payer en 2020. Ce report était réclamé par les particuliers employeurs parce que les plateformes actuelles où ils déclarent les salaires ne sont pas prêtes. Et comme les particuliers n'ont pas de comptable, pour éviter les erreurs de calcul, le gouvernement préfère attendre que tous les outils soient opérationnels. Certains s'interrogent, ce report peut-il entraîner une rupture d'égalité devant l'impôt? Le risque d'inconstitutionnalité est mince, estime Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel. Quant à d'autres reports éventuels, à Bercy, on préfère garder le silence.
Mélodie Pépin, merci. À Nantes, le policier auteur du coup de feu qui a entraîné la mort d'un jeune homme mardi a été placé en garde à vue dans les locaux de l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale. Ce décès a provoqué une flambée de violences urbaines dans les quartiers sensibles de l'agglomération nantaise. Mardi soir, le policier avait tiré sur la voiture du jeune homme, un délinquant qui cherchait à se soustraire à un contrôle de police. L'enquête de l'IGPN devra déterminer s'il y a eu ou non légitime défense. Un mot de la météo demain, le temps s'améliore avec de belles éclaircies sur le nord-ouest, mais il sera encore orageux sur l'est. Sur les régions méditerranéennes, le soleil devrait être au rendez-vous. Les températures minimales iront de 12 à 20 degrés, les maximales varieront de 24 à 32 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.